Pourquoi pas dans l'évangile de Saint-Jean, faites vous-même le travail en essayant de voir qu'est-ce qui est par derrière. On avait vu qu'en effet, ce qui est derrière, c'est que dans l'Eucharistie, l'Eucharistie est un repas, l'Eucharistie est un mémorial, l'Eucharistie est un sacrifice, l'Eucharistie est une action de grâce, l'Eucharistie est un sacrement. C'est le mystère des mystères. Le mystère de la foi, la source de la charité et la force de notre esprit. Vous voyez ? Bon. Mais ce qui est en puissant, substantiellement dans l'Ancien Testament, se trouve en acte dans le Nouveau Testament. Vous voyez ? Ce que le Christ est dans l'Eucharistie, l'Église l'est mystiquement. Oui, parce que c'est 5 et c'est 7. Bon, ensuite, eh bien, oui, que nous donne, oui, c'est ce qu'on avait vu à chaque fois, c'est qu'à chaque fois dans l'Eucharistie, nous pouvons, nous possédons, nous tenons dans nos mains la résurrection du Christ et notre propre résurrection. Nous pouvons passer du temps à l'éternité, vous voyez ? Nous pouvons toucher, habiter et demeurer et offrir à la plaie du cœur, au Père et à la tête de la Trinité. Nous pouvons offrir Marie au Christ ressuscité et nous pouvons jouir de l'aspiration du Saint-Esprit et donc vivre du Saint-Esprit. Voilà les 5 choses que nous pouvons faire. Donc tout ça, on a vu à travers l'Écriture, presque pas à pas. Donc maintenant, on peut continuer, puisque ça, c'est en attendant que... Donc maintenant, on va voir un petit peu... la suite dans l'évangile directement. Bon, je fais ça comme ça, hein, je vous ai inventé le machin. Faites-vous-même la recherche, on essaye ensemble de travailler. Je tiens à vous dire que je n'avais pas préparé la retraite, donc c'est ensemble, nous allons trouver ça. C'est bien. C'est bien. Et on va pouvoir écrire un livre, on mettra Collectif Saint-Saturnin. Ce sera bien. Bon. Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire.
Priez-vous.
Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire.
Priez-vous.
Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire.
Priez-vous.
Eh bien, rentrons tout de suite dans l'enseignement où Jésus directement nous enseigne le mystère de l'Eucharistie. Donc, chapitre 6. Évangile de Saint-Jean. Je ne regarde pas l'évangile de Saint-Luc, ni chapitre 13 de l'évangile de Saint-Jean, ni les autres repas. Il enseigne directement tout le temps. Hein. Directement. Mais enfin là, quand même assez extraordinaire. Sachez simplement, vous voyez ce qu'on a vu. C'est dans la lutte de l'Église que l'Eucharistie est donnée. Alors l'Eucharistie, deuxièmement, c'est la venue de Jésus dans la lutte de l'Église qui réalise une présence réelle et efficace et qui nous mène à la résurrection. Voilà ce que nous avons vu à l'instant. À travers cette histoire, après la multiplication des pains, les hommes n'ont pas compris le signe de la multiplication des pains, et du coup Jésus les envoie sur la barque, et à travers ce quadruple signe de la barque, il explique ce que c'est que le mystère de l'Eucharistie. C'était un signe. Et à partir de là, il va expliquer. Vous voyez, vous avez encore 5, là, ce que je viens de vous dire. Un signe efficace, présence réelle, mène à la résurrection. Et vous voyez, c'est dans la lutte. Or, dans la lutte, chapitre 6 jusqu'au chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, c'est un chapitre 6 à 11, c'est effrayant, une lutte effrayante. À partir de ce moment-là, Jésus est complètement bousculé. On essaie de le faire taire, on le contredit, on l'insulte, on le calomnie, on dit « ouais, il a fait ça », etc., etc. Personne n'y comprend rien, on le critique de plus en plus, et lui suscite presque cette lutte. Extraordinaire, parce qu'il n'hésite pas à dire la vérité. Ah, si vous voulez être tranquille, bien dans vos pompes et dans vos pantoufles, surtout, ne cherchez pas la vérité. Et ne soyez pas témoin de la vérité. Là, vous serez tranquille. Ça, politiquement, vous serez bien. Bien dans vos pompes, mais vous aurez amené, j'allais dire, toute l'humanité dans le courant du fleuve, c'est-à-dire jusqu'au précipice. Il faut proclamer la vérité sur l'homme, la vérité sur la vie, la vérité sur l'amour, la vérité sur le Créateur, et si possible, si la grâce nous en est donnée, la vérité sur la révélation. Alors à ce moment-là, c'est Jésus, lui, il est témoin de la vérité. Et au milieu des luttes, vous verrez, du chapitre 6 à 11, à partir de là, il va y avoir une lutte invraisemblable contre le Christ. Et il ira jusqu'à la mort.
Saint-Luc explique qu'à partir de ce moment-là, Jésus fixa son front sur Jérusalem. C'est-à-dire qu'il n'a pas cessé d'avancer vers Jérusalem, géographiquement, pour ceux qui font de la géographie, c'est-à-dire jusqu'au Golgotha. Il va vers le Golgotha résolument. Et le démon l'empêche par des luttes invraisemblables d'aller même Saint-Pierre. Non, tu n'iras pas, tu iras te faire crucifier, nous l'empêcherons. Arrière ! Satan, passe derrière moi. Personne n'y comprend rien. C'est la lutte. Et même nous, quand on lit l'évangile de Saint Jean, chapitre 6 à 11, c'est l'anarchie complète. Ça se bouscule de tous les côtés. Alors, on ne comprend pas. Comment se fait-il qu'il y ait tout ça dans l'évangile de Saint Jean ? Il n'y a pas d'or, on n'arrive pas à trouver une trame. Oui, il y a une trame. Parce qu'à partir d'ici, Jésus dit « Je suis ». Et il dit « Je suis » sept fois. « Je suis », c'est la présence de Dieu. Dieu existe et il est présent. « Je suis ». Et il le dit 33 fois en grec. « Ego eimi ». Calculez-moi bien le texte grec. 33. Et ces 33 fois se ramènent, parce que quelquefois il dit, vous allez le voir, au moins 7 fois je suis le pain de vie. Il dit plusieurs fois je suis la résurrection. Ça se ramène à 7 affirmations. Jésus dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est Dieu. Et Jésus le suit. Et puis, ici, chapitre 6, tout de suite, il dit immédiatement, « Je suis le pain de vie. » Voilà les deux affirmations de base, l'alpha et l'oméga, du Christ, dans l'Eucharistie. Et à partir de ce moment-là, il va dire, « Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis la résurrection. » Dans l'Eucharistie. Entre la présence réelle dans l'Eucharistie, transsubstantiation, et la présence vivante, le pain et le vin, il y a les cinq aspects de l'Eucharistie. Je suis la résurrection. Je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est ce qui fait passer du temps à l'éternité. Et nous le savons bien du reste, vous savez, les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils font les bouddhistes? Ils rentrent à l'intérieur de l'âme, ils atteignent l'âme par l'induction de l'âme, par la méditation tout simplement, par l'intériorité, un peu la manière de Plotin. Ils atteignent en eux l'âme et en deçà de l'ego, la source de l'unité de l'ego et de cette vie prodigieuse qui est en eux, ils s'engloutissent à l'intérieur en deçà de l'ego, ils voient la source de leur vie intérieure, de l'âme, et ils voient que c'est de la lumière. C'est la lumière qui actue leur diaphane intérieur. Et ils voient que s'ils vont à la limite, à la source de cette lumière qui actue le diaphane inférieur, ils touchent la lumière qui actue le diaphane de tout l'univers. Ce que disait Plotin, la dernière parole de Plotin. Vous savez, j'essaie de comprendre le divin qui est en moi et le divin qui est en l'univers. Vous voyez comme le point de vue ici. Vous voyez, le divin. Le temps, passage du temps à l'éternité, c'est tout à fait le point de vue de l'âme. Je n'atteins pas Dieu, évidemment, par là. Par la voie intériorité, je n'atteins pas Dieu. Vous comprenez bien. Mais l'éternité, oui, c'est vrai, par le carré. Si je la vis de manière très intérieure. Ici, je reçois la paix du cœur. Donc, vous voyez, je suis la porte. La porte, vous voyez, c'est le bois, c'est l'ouverture du cœur qui est la porte d'entrée dans l'intimité divine. Le cœur du Christ s'est ouvert, je peux rentrer dans le sein des saints. C'est-à-dire la très sainte Trinité. Je suis la porte. La porte, c'est la croix. Chaque fois que j'ai dit je suis la porte, hein, dites-vous bien, c'est la croix. Vous voyez ? Je suis le bon pasteur. Il mène vers les gras pâturages. Vous voyez ? Je suis le bon pasteur. Je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la personne. C'est la personne divine. Vous voyez la différence entre la résurrection, c'est le corps. Et je suis le Fils de Dieu, c'est le Verbe dans la très sainte Trinité qui nous donne l'Esprit Saint. Donc vous voyez que tout l'évangile de Saint Jean, que ce soit, j'allais dire, dans sa trame,
ou, j'allais dire, dans sa structure, dans sa trame de progressive, ou dans sa structure sans arrêt, vous voyez, c'est toujours l'Eucharistie.
Il faut voir ça. Il faut voir que Saint Jean, si vous voulez, quand il était à la scène eucharistique,
ah, j'ai pas mis les cinq repas, bon, j'avais pas assez de place, mais
quand il était à l'Eucharistie, Jésus était collé sur l'amour de Jésus, sur la poitrine. Et il avait les yeux fixés sur l'Eucharistie, à l'institution de l'Eucharistie, la place qu'avait Saint Jean. Il était coincé entre le cœur, l'amour de Jésus, et l'Eucharistie.
Et la place. Vous vous rappelez qu'on avait placé le mystère de Marie ici, le mystère de l'Église.
Il y a toute une gymnastique, hein, théologie, c'est la méditation. C'est de la méditation qu'on fait là. C'est pas de la contemplation, c'est de la méditation. Il faut essayer de contempler. Et demander au Saint-Esprit de nous aider à contempler. La parole de Dieu est une parole vivante. La parole de Dieu est une nourriture. Quand vous lisez Shakespeare, quand vous lisez quelqu'un qui est prodigieusement intéressant, très intelligent, quand vous lisez Nietzsche, c'est très intelligent. C'est pas un idiot. C'est un génie. C'est un corrupteur, mais c'est un génie. C'est comme Gainsbourg, c'est un génie, point de vue artistique. C'est génial, mais c'est un corrupteur. C'est très bon artiste, vous voyez, deuxième dimension de l'homme, mais du point de vue, vous voyez, de la cinquième dimension de l'homme, la sixième, pardon, la coopération. C'est un anarchiste, il disait lui-même d'ailleurs. Vous voyez, quand vous lisez donc Nietzsche, le texte, vous lisez même Plotin qui est génial. Bon, c'est intéressant quand vous lisez Simone Veil, La pesanteur de la grâce. C'est génial. Mais ça ne vous. Ça vous intéresse. Ça vous forme à la rigueur. Ou ça vous déforme. Ça dépend. Mais c'est pas une nourriture. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Parce que c'est la seule parole qui existe dans notre univers qui soit conjointe avec son auteur. C'est l'Esprit Saint qui est l'auteur principal de l'Écriture. C'est une personne. Et donc quand je me nourris de l'Écriture Sainte, de la parole de Dieu, la personne pénètre avec la parole de Dieu, et c'est pourquoi c'est une nourriture. Vous voyez, il faut voir les recherches qu'on fait en ce moment sur donc, l'ordinateur pour comprendre que ce n'est pas une parole qui vient des hommes. Ça, aujourd'hui, grâce à Dieu, depuis 2 ou 3 ans, on sait qu'il est impossible que ça vienne des hommes. Et on a fait des expériences par ordinateur semblables à celles de la Bible sur le texte original, sur 300 autres textes qui sont censés être sacrés ou géniaux, Shakespeare compris. Et il n'y a que l'Écriture sainte qui répond à ces critères de miracle permanent à chaque lettre, de chaque lettre à chaque lettre, de chaque lettre à chaque lettre, de chaque lettre à chaque lettre, je ne tiens plus jusqu'à la fin. Mais si vous faites sauter une lettre, tout explose. Ça, le caractère prodigieux des Juifs, c'est qu'ils ont gardé la moindre lettre. Même s'il y avait une apparente erreur. Et alors, on est obligé de s'incliner. Si quelqu'un n'a pas eu ce petit chose, je lui donnerai. Je lui donnerai un petit document. Et puis, s'il n'est pas convaincu, l'ancien document. Nous n'avons pas encore sorti notre nouveau document. C'est en cours, n'est-ce pas ? C'est en cours. Mais nous ne dirons pas où est-ce que se fait le travail, dans le laboratoire secret, pour éviter d'avoir le moshad aux fesses.
Oui.
Même sous la sorte torture, je ne le dirai pas. Donc, voyez bien, ce n'est aucune espèce d'importance. On le sait, nous, par la foi, que ça vient de Dieu. C'est pour ceux qui ont du mal à dire, oh, bon, faut avoir un peu d'amour pour les gens qui disent il leur faut des preuves informatiques. Bon. C'est autre chose. Alors, donc, non, papa, parce qu'on n'a pas le texte original après. On a 5 ou 6 hypothèses de texte original pour le. En Matthieu, oui. Il y a un original en arabe.
Et les autres, c'est grec. Même genre.
Ah oui.
Oui.
Ah grec. Ah il a écrit en grec. Ah oui. Mais c'est curieux d'ailleurs que Dieu ait voulu qu'il y ait eu 5 langues pour constituer la Bible. L'hébreu, la Genèse, etc. Le copte. Ah, il y a des parties en copte originales. Le grec. L'araméen, et puis la langue sacrée, qui n'est pas dans la Bible, mais qui est la langue de l'Église, le latin. Mais elle est quand même dans la Bible, puisqu'on a, vous voyez, le fameux écriteau. Ah non, pas les originaux. Le Tamar, oui, mais pas... Oui, le Tanar, oui, mais pas le livre de Job, par exemple. Il y a des parties entières des Septantes qui sont en grec en original. Bon. Mais tu vois, c'est pas si simple. Mais il y a toute une partie de travail qui est faite sur le copte. Et il faudrait que je vous explique un jour.
De toute façon, Dieu n'a fait que des langues sacrées.
Ben, elles sont devenues sacrées par le fait même.
Il y a des parties qui les a choisies pour donner la.
Oui, si tu veux, oui. Oui, oui.
Donc, logiquement. Sur le grec,
ah mais il y a tout un travail qui est fait sur le copte, je peux te dire que c'est assez hallucinant. Hein. Parce que c'est hallucinant. Je vais vous donner un petit aperçu, mais c'est un type qui s'appelle Crombette qui a fait ça. C'est extraordinaire. C'est édité par le CESHE, Centre d'études scientifiques et humaines, je ne crois pas, sur l'écriture. C'est extraordinaire. Et alors, il regarde dans le copte, il a remarqué, parce que c'est un grand spécialiste des hiéroglyphes égyptiens, c'est un des plus grands spécialistes. Il avait découvert un texte des hiéroglyphes, il avait pu traduire, c'est pas si facile. Il avait traduit parce qu'il avait s'était rendu compte que c'était les mêmes racines qui étaient dans la langue égyptienne, dans le copte et dans l'hébreu. Et qu'il y avait une langue qui était à l'origine de ces trois langues, qui était commune. Et à partir de là, il pouvait traduire. Il s'est rendu compte de trucs absolument prodigieux, et qu'il y avait exactement les mêmes consonances. Et puis, il a vu par une espèce de miracle, de prodige, de hasard, si vous voulez, qu'il y avait comme des harmonies entre le copte et l'hébreu, aussi, pas seulement avec les Égyptiens. Alors il s'est dit, ah, il y a un texte, il a traduit un jour un texte sur l'Égypte, où on voyait, Joseph traversa le Nil, les eaux se séparèrent, et il monta faire sa sépulture en Israël, etc., à partir du texte hiéroglyphe. Il a regardé le texte correspondant dans la Genèse, et il a regardé, et c'est un spécialiste du copte, aussi un très grand spécialiste du copte, primitif. Il a regardé, et il ne connaît pas bien son hébreu, alors il a fait transcrire en phonétique en hébreu, il l'a écrit en copte, parce que lui connaît bien le copte, et le copte c'est une langue qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, monosyllabique, c'est-à-dire que, c'est pas comme l'hébreu,
mais...
C'est monosyllabique. Bon, par exemple, a, ta, to, ti, pa, ra, sa, etc. représentent des mots, si vous voulez. Ça va? Et donc, en prenant la phonétique de l'hébreu et en retranscrivant en copte, eh bien, il a traduit, au lieu de traduire l'hébreu, il s'est dit, tiens, je vais traduire le copte pour voir. Il s'est dit, tiens, ça c'est un mot. Vous avez des trucs prodigieux, comme par exemple le déluge. Je ne sais pas expliquer pourquoi il y a eu le déluge. La Genèse. Vous mettez en copte, Et la traduction est prodigieuse. Le texte de la Genèse explique, par cette mutation de l'hébreu en copte, le texte explique qu'à l'origine, Dieu avait créé effectivement l'univers, et comme on voit dans certaines planètes, vous savez, cette espèce de nuée autour de Saturne, là, cette espèce d'anneaux, je ne sais pas quoi, des anneaux à queue, je ne sais pas quoi, moi je n'y connais rien en astrologie. Donc, enfin là, autour de la Terre, c'était de l'eau, si tu veux, c'est de l'eau en suspension. Qui tournait, qui était suffisamment translucide quand même par rapport au soleil et tout ça. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'avec la perturbation du mal, notamment peut-être des puissances de ténèbres, peut-être du péché aussi de l'humanité, il y a eu un phénomène, alors Genèse explique qu'il y a eu un phénomène où l'axe de la Terre s'est déplacé. Ça a fait basculer l'axe de la Terre. Ça a provoqué simultanément, ce qu'explique le copte. Ça a provoqué, alors tu as l'explication dans la Genèse de ça. Ça a provoqué simultanément des secousses telluriques prodigieuses, des secousses sismiques, des engloutissements de continents, l'apparition des océans, la séparation des continents, hop, d'un seul coup, des phénomènes de relief inattendus, etc. Et en même temps, du coup, à cause du changement de l'axe, un changement dans les conditions, j'allais dire, de condensation de l'anneau, l'anneau s'est condensé, ça a provoqué le déluge. Et puis bon, enfin, il y a toutes sortes de... C'est marrant, enfin. Je ne sais pas si c'est... Il faudrait que je rentre là-dedans très précisément pour voir si c'est sérieux ou pas. Mais il faut avouer qu'il y a des choses prodigieuses dans la Bible. On n'est pas à la fin de nos... Il n'y a que sur la Bible qu'on peut découvrir. Il y a une autre recherche qui se fait à Paris, absolument extraordinaire. On traduit en notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, d'alphabet hébreu. Et on fait la symphonie. Il y a toute une recherche qui se fait, il paraît, c'était extraordinaire. Il paraît c'est absolument extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir toutes les recherches qui se font. Et on le sait aujourd'hui que c'est le seul texte qui soit comme ça. Impossible que ça vienne des hommes. Totalement impossible. Alors là. Bon, alors, donc vous voyez. Nous savons que ça vient de Dieu. Alors les gens, ils vont dire, ouais, ça vient des extraterrestres. Laissez-les crever dans leur mort. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre. Voilà. Même après leur mort, quand ils verront le Christ ressuscité, ils diront non. Alors, c'est pas la peine d'insister. On ne peut pas les sauver contre leur gré. C'est pas possible. L'orgueil, ça vous jamais vaincu. Jamais.
Après leur mort, quand même.
Après leur mort, l'orgueil, ça vous jamais vaincu. Alors, donc continuons. Le jour suivant, alors voyez, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il n'y avait là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas entré avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques, cependant, étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où le Seigneur, après avoir rendu grâce, leur avait donné à manger. Voyez, donc quand on se nourrit de la parole de Dieu, on se nourrit. C'est l'Esprit Saint qui pénètre en nous en même temps que la parole. C'est pour ça que c'est une nourriture. Et on ne peut pas lire la parole de Dieu en dehors d'une spiritualité eucharistique. Et donc il faut le faire en présence du Père qui nous envoie l'Esprit Saint à travers la parole. À ce moment-là, on vit de l'Écriture Sainte comme il convient. C'est une nourriture. Voyez ? Et ayant trouvé Jésus de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Seigneur, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répartit, leur dit, « en vérité, je vous le dis. » Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été repu. Vous vous êtes gavé, quoi. Et c'est pour ça, uniquement. Il faut que vous travailliez, non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué d'un sceau. Premier enseignement sur l'Eucharistie. Hein, vous voyez ça. Vous voyez, tout de suite, c'est le travail. Immédiatement, c'est le point de vue du travail. Vous voyez, ça, on ne l'avait pas vu hein, dans l'Ancien Testament. Immédiatement, c'est le travail. Le travail, c'est quoi ? L'art. C'est quoi l'art ? La dimension artistique en nous. C'est transformer la matière. Nous sommes face à la matière. C'est le gros problème du matérialisme dialectique. Nous sommes face à la matière. Et il faut la transformer. Alors nous travaillons dans la peine. Vous voyez que c'est la faute d'Adam. On va dans la paix pour gagner le pain. Et donc Jésus, vous voyez, ici tout de suite, lie au travail. D'abord, premièrement. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, il faut respecter le point de vue de la messe du dimanche, parce que la messe du dimanche est le seul moyen de faire que votre travail devienne chrétien. Parce que l'art chrétien n'existe pas. On ne peut pas baptiser l'art. Dans l'art, c'est l'homme qui est créateur, c'est pas le chrétien. Parce que c'est ton inspiration qui s'inscrit dans la matière. Et c'est ton génie qui s'inscrit dans la matière. Et Dieu demande que ce soit l'homme qui soit créateur et travailleur. C'est pas le chrétien. Vous voyez, l'encyclique du Saint-Père, Laborem Exercens, sur le travail. La charité ne pénètre pas dans le travail. Elle peut pénétrer, oui, par l'Eucharistie. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que par l'Eucharistie, vous comprenez bien que la plus grande transformation de la matière qui soit réalisée dans notre univers, c'est quand Jésus, sur la croix, dans sa mort, dans sa croix glorieuse, a pris la matière du corps humain et il l'a transformée. Il n'a jamais eu une transformation de l'univers aussi grande, aussi prodigieuse, un travail aussi travail que dans la mort du Christ, le travail de Jésus sur la croix. C'est de reprendre toute la matière dans l'univers, dans nos corps, à chacun d'entre nous, dans son corps, pour le transformer dans l'aspiration de la résurrection. C'est un travail que fait le Christ. C'est la plus grande transformation de la matière qui est jamais réalisée. La plus grande transformation de l'univers. Et donc quand, dans le cycle naturel, parfaitement naturel, du rythme, du cosmos, vous voyez, c'est bien le cosmos, c'est la matière. Le rythme du cosmos, Pythagore avait bien vu, vous voyez, avec ses calculs, etc., que le rythme cosmique était un rythme de 7 jours. Et notre rythme de travail face au cosmos, c'est un rythme de 7 jours. Donc notre travail, nous travaillons. Et on voit bien dans la Bible aussi, il y a quelque chose qui nous rappelle ça, les 7 jours de la création. Mais vous voyez bien que notre travail de la semaine n'est pas chrétien. On le fait du mieux qu'on peut, de la manière la plus géniale qui soit, la plus droite possible. Mais il ne faut pas mélanger ce qui est immélangeable. Ce n'est pas chrétien. Comment est-ce que ce sera chrétien ? Il faut que je mette mon travail, le 7e jour, qui est la fin du cycle naturel cosmique, dans la patène. La semaine d'après, vous aurez plus de force, évidemment, mais pour une autre raison, dans votre travail. Votre travail sera encore plus humain, encore plus génial peut-être. Encore plus éveillé. Mais il ne sera pas chrétien, il sera humain. C'est bon, ça. Un vrai travail. Mais si vous ne mettez pas sur la patène eucharistique le dimanche suivant, le travail de cette semaine ne sera pas un travail chrétien. Ça fait 5 fois 8, 40 heures de vie chrétienne. Du point de vue chrétien. Du point de vue humain, c'est pas possible. Ça veut dire que la valeur méritoire, rappelez-vous, la grâce et le mérite, le corps et l'âme forment la chair, l'âme dans la grâce forme le mérite. la sainteté. Ce que je vous avais dit. Votre travail ne mérite pas la vie éternelle, si vous voulez. Vous faites bien. Ah, j'ai jamais volé, jamais tué. Oui, mais tu n'iras pas au ciel pour autant. Si tu veux que ton travail mérite, ça veut dire qu'il a la même valeur que la valeur de Jésus crucifié transformant le monde, il faut le mettre dans le cadre. Premier enseignement de Christ. Ça, c'est quand même assez prodigieux. Hein. Mais ça, c'est quand même très, très extraordinaire de comprendre que la matière du sacrement de l'Eucharistie, c'est le travail. Mais il n'y a pas que le travail. Le travail, c'est le premier mot de ce passage. Il faudrait que vous fassiez, vous voyez. Premier mot, vous voyez. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été repus. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, parce que c'est lui que le Père, Dieu, a marqué d'un sceau. Voilà. Vous reprenez vous-même et puis vous voyez, vous refaites le cycle. Et sans arrêt, il va revenir 5, 5, 5, 5, 5. Ça va être extraordinaire, vous voyez. Je ne peux pas m'arrêter partout. C'est pas possible. Je peux vous donner quelques petits flashs comme ça, mais à vous, n'est-ce pas, de demander à l'Esprit Saint de vous montrer tout ça. À partir de la révélation, de la foi, et puis de la réalité intérieure de ce que vous expérimentez lorsque vous vous livrez dans l'holocauste de l'Eucharistie, à la manière de l'Immaculée. Ce n'est pas notre manière qu'on se livre à l'Eucharistie. Il faut le faire à la manière de l'Immaculée. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, ergon tout eo. Jésus leur répondit, voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est par la foi qu'on accède à l'Eucharistie. C'est ça l'œuvre de Dieu. Le vrai travail que vous puissiez faire, c'est faire une œuvre de foi. Votre travail devient chrétien si par la foi, vous faites pénétrer dans le travail de la résurrection, qui est le travail de la croix. Ça, c'est facile à comprendre. Et lui dire, quel miracle feras-tu afin que nous le voyons et que nous croyons en Dieu, hein, et que nous le voyons et que nous croyons en toi, quelles sont tes œuvres? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Là, voilà. Alors ça, voyez, c'est l'éternité qui descend dans le temps. Deuxième aspect de l'Eucharistie. Vous voyez, nous allons avoir ici, dans le discours, 5 affirmations. C'est-à-dire, en vérité, je vous le dis 5 fois. Et ces 5 affirmations sont toujours sous 5 aspects, chacun. C'est pas, c'est marrant. C'est pas le mot, mais spécial, quoi. De toute façon, c'est un genre toujours 5 et 7, hein. C'est pas compliqué. Alors, Saint-Pierre, vous remarquerez, si vous lisez les épîtres de Saint-Pierre, c'est 3. C'est structuré par 3. Il y a des petites choses comme ça qui sont amusantes à constater. Enfin, c'est pas amusant, c'est pas le mot, c'est réjouissant. Donc Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, oui, c'est ça, oui, bon, très bien. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur répondit, ah, pour la première fois, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, le sacrifice. L'agneau. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour, car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, comme on en dit Père, vie éternelle. On l'a encore ici. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ça donne la grâce. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ?»« Ben, comment dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Être attiré par ce qu'il y a de plus vrai dans le mystère de Jésus sur la terre. C'est le signe qu'il y a un amour de la première personne de la Très Sainte Trinité sur toi. Être attiré par Jésus. Mais dans son authenticité, la plus réelle, son authenticité substantielle, bon, les froufrous qui ont autour. La foi, ça c'est le signe que le Père nous a choisi, et qu'il nous a dit, nul, vous voyez, ça c'est très très fort. Et moi je le ressusciterai au dernier jour, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Vous voyez, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, c'est le verset 44, hein. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et qu'on n'en meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. Voyez ça. Donc, voyez, on y est. Le Père nous attire par la plaie du cœur. C'est évident. C'est ce qui est écrit dans toute l'Écriture. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. L'attraction du Père, c'est à partir de la blessure du cœur. Ouais, c'est ce troisième aspect qu'il y a dans le troisième, en vérité, je vous le dis. C'est très fort. C'est très, très fort. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant. Vous voyez comment l'adorateur, un, n'est-ce pas, a du mal avec 5, le carré. Il bute sur les cinq plafonds à creux pour rentrer dans le mystère de l'Eucharistie et vivre de la Très Sainte Trinité. Alors c'est pour ça que les Juifs, c'est des vrais adorateurs. Hein. Ce sont pas des adorateurs en esprit en vérité. Mais c'est des gens qui ont le sens de Dieu et qui ont une intelligence. Alors là, c'est ça qui est prodigieux avec eux. Qu'est-ce que c'est intéressant. Moi, je jubile à chaque fois que je suis avec un juif. Au moins, on n'a pas l'impression d'être à côté d'une larve. Hein. Enfin, on respire. On a l'impression de voir. Oui, parce que ils ont le sens de l'absolu. C'est extraordinaire, tout ça. Il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose hein, dans chez les Juifs. Hein. C'était très curieux. Là, moi, je le constate à chaque fois. Même au Sahel, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a les Peuls Bororo. Les Peuls Bororo sont d'origine sémite. C'est des Juifs d'origine. Ils sont complètement noirs, vous voyez, mais c'est d'origine sémite. Ils sont musulmans, si vous voulez, mais ils sont d'origine sémite. Mais, point de vue humain, il y a quelque chose qui dépasse tous les autres. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, il y a une espèce de liberté, c'est bon, qu'on ne trouve pas chez les autres. Hein? Certains, tu connais, il y en a au Tchad. Ils sont peut-être moins, je sais pas, les full bêtes. Les peuples full bêtes sont les meilleurs, je trouve. Enfin. Bon, c'est un autre problème. On va quand même pas discuter. Donc je suis les disputés entre eux en disant, il faut comprendre comme nous avons du mal à rentrer dans le mystère de la foi. C'est pas facile. Jésus nous donne, nous attire, il nous donne tout. Mais il faut quand même qu'on lâche du lest. Il faut qu'on desserre le câble qui nous retient dans le pare-choc arrière de la voiture, qu'on desserre le frein, qu'on mette le contact, qu'on mette la première au lieu de la marche arrière, et hop, et qu'on allume les phares quand même, de préférence. Sinon on tombe dans le pylône en face et on ne fera pas plus avancer. On a cinq choses à faire. On préfère mettre les rétrofusées, je sais pas pourquoi. Alors, ouais, on descend le fleuve. Oh, quelqu'un qui me dépasse le cadavre, il va plus vite que moi, va le prostituer. Bon. Jésus leur dit, en vérité, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous voyez, le sang apparaît, le vin. Si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc il répète, vous voyez, il reprend, mais il monte un peu plus haut, vous allez voir. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi en lui. Et le Père qui est vivant m'a envoyé, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est là le pain qui est descendu du ciel. Vous voyez, l'action de grâce. J'ai tout reçu du Père. Je vis par lui. La gratitude, la demeurant dans le Père. L'action de grâce. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Génial. Il fait la paix dans le monde entier. Il réveille l'intelligence de tous les hommes de l'humanité. Hein? On va peut-être en voir un comme ça. C'est ce que disent les bouddhistes. Avant le 20e siècle apparaîtra le dernier Bouddha. Ce que disent les musulmans. Le dernier imam est pour notre génération. Oui, oui. Bon, ou vous allez à Castellane. C'est extraordinaire d'aller à Castellane. N'y allez pas. Moi j'y suis allé à Catalane. J'ai eu des visites de Lituaniens, je me suis dit, je veux leur montrer à quel point les Occidentaux sont givrés. Alors, hein? Alors, du coup, on a fait les gorges du Verdon, on a vu cette prodige de la nature dans les gorges du Verdon. On a dit la messe le matin avant de partir, avec Jésus dans le corps et dans le ventre. Il n'y avait pas de problème, le pain des pauvres, on pouvait y aller, on pouvait admirer la nature. Et du coup, on a été jusqu'à Castellane. Et à Castellane, dans un paysage prodigieux, on voyait le bord de la, en bas, le lac de Castellane, bleu-vert, magnifique, les montagnes, etc. Et puis un village, une ville, Chambalazer. Bon, ne le répète pas, pour personne. Et puis, dans ce village, vous avez des grands tableaux. Fais la paix avec toi-même, fais la paix avec les autres. Donne ta vie à vous. des grandes affiches merveilleuses. Et puis, hop, une synagogue. 20 mètres plus loin, une mosquée. 40 mètres plus loin, une pagode. Un peu plus loin, 30 temples de religions différentes. Temple de l'homisme, du bouddhisme, le petit temple calviniste, la statue du Sacré-Cœur. Au milieu de tout ça, trônant, le Bouddha. 17 mètres d'eau. Par la béatitude. Et la compassion. Il domine tout ça. Et face au Bouddha, Jésus. 27 mètres d'eau. Le Christ. Cosmique. Avec la Vyatitsa. La croix. Le Christ cosmique avec le glaive. Qui fait face au Bouddha avec lumière, la lumière de toutes ses énergies. C'est la lumière du cosmos. Et puis, un petit peu plus loin, 33 mètres de haut, le dernier cri qui est à la fois Bouddha et Christ, et qui, dans son amour, rassemble Christ et Bouddha dans la dernière réunification de l'homme. Dans le pire. Il s'appelle M. Bourdin, hein, ce mec. Hein.
Vous auriez vu là.
Oui. Et puis, vous oubliez de dire que la statue de la Sainte Vierge avec un rayon laser à la main.
Oui, ça peut être. Oui, non, mais je vous raconte pas. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Bon, il y a 50 moines là-dedans, 1000 prêtres dans le monde entier, chacun de ces 1000 prêtres. Anime un groupe, etc., pour faire la paix par les énergies. Je vous en passer des meilleurs. J'ai pas. Je suis parti de là avec les Lituaniens. Bon, très bien. Je leur ai dit, voyez, c'est bien. C'est comme Thésée, voyez, on fait l'œcuménisme ici. Et le. Oui, c'est vrai. C'est bien. Mais seulement, moi, pendant à peu près un jour ou deux, j'ai eu Pourtant, je vous affirme que j'ai jamais de j'ai rien, hein. J'ai jamais eu cette truc-là, moi. Hein. Mais j'ai sans arrêt des voix, des mantras autour de moi. Pendant, j'ai dû faire deux exercices pour m'en débarrasser. Je sais pas comment font les gens qui n'ont pas le pouvoir que j'ai. Hein. Non, mais quand vous allez en y passer sans rentrer, on est allé pour voir. Et comment font les gens qui vont là-dedans? Moi, c'est resté à l'extérieur parce que vous comprenez bien, celui qui est en état de grâce, ça pénètre pas, mais les pauvres gens qui rentrent là-dedans, ils ne sont pas en état de grâce, ça rentre dedans, ils ne s'en rendent même pas compte, ils sont infestés. C'est incroyable. C'est exactement comme le code barre, tous les trucs, pareil. C'est la même chose. Bon, c'est les énergies. Les énergies.
Ce type avait l'air vraiment fou, vraiment un vrai délire.
Oh, non. Mais non.
Bon.
Alors.
Donc, M. Bourdin, alias.
Oui. Non, M. Bourdin, c'est son nom, c'est un français.
Et sinon,
mais non, c'est pas le Maitreya. Maitreya, c'est pas du tout lui.
Ah,
bien sûr que non. Maitreya, c'est le Maitreya de toute chose, évidemment.
Et Bourdin, c'est celui qui guérit.
Oui, pourtant, il a fait Shambhala-Zalem, c'est tout. Bon, alors, donc Jésus, donc cette parole qui est dure, oui, écoute, n'y allez pas, quoi. Mettez pas au-dessus des Adam, je préfère vous dire, il vaut mieux pas, quoi. Sinon, venez me voir après, quoi, on en parle. Donc, mais me fatiguez pas avec ça, hein. Bon, alors, parce que moi, j'en ai marre aussi, hein, de voir ces gens, alors... C'est dingue. Bon, allez, non, je préfère pas parler de ça. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, ça vous scandalise? Vous pouvez leur imaginer donc à cette espèce de maîtrise arrive, prodigieux. Qui Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais il est prodigieux. C'est prodigieux ce que fait Jésus. Il multiplie les pains, il fait des miracles. Il apparemment, c'est vraiment Dieu qui est là, quoi. Ce que dit la Vierge de la Salette, c'est que l'Antichrist... Il ressuscitera même des morts. Mais oui, alors si on s'appuie sur les miracles, vous savez, vous n'êtes pas foutus. Hein. Vous s'appuyez sur la foi. On s'appuie sur le charisme. Et on s'appuie sur Marie. C'est tout. On ne s'appuie pas sur les miracles. Et voyez, il fera du bien, il fera la paix dans le monde. Supposez un type qui fasse ça. Même, supposition. J'espère que ça sera. C'est merveilleux ce type, c'est génial. C'est plus qu'un prophète. C'est vraiment. Hein? Et puis s'il vous dit, supposez que le Christ n'ait jamais existé. Hein? Je fais cette supposition. Que Jésus n'ait jamais existé. Et puis qu'on ait ce bonhomme-là, dans 10 ans qui arrive. Quel est le miracle. Heureusement, Jésus est venu avant. Hein? Et puis qu'il vous dise, au bout de 6 mois, que vous le suivez, bon, vous devez manger, ma chère. Sinon, vous n'aurez pas la vie. Vous direz, M. Bourdin débloque. 6 mois que je le suis, c'est prodigieux, mais là, il commence à transpirer du cerveau. Forcément. Il faut se mettre à la place, hein. Non, mais c'est vrai. Il commence à être... Non, il y a une dysfonction, hein. Dysfonction cérébrale. Il disjoncte. Qui mange ma chair et boit mon sang. Je sais, il faut comprendre ça, ces choses. Il y a le murmure. Comme c'est difficile. Et Jésus le sait, ça. Ça vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Vous voyez la très sainte Trinité, cinquième aspect. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est si vous voulez vivre de la très sainte Trinité que vous pouvez comprendre ce que je dis. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, inspiration, oui, et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas Jésus, voyez. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Pour le deuxième repas, le premier repas il est absent, c'est normal, c'est le vin. L'oraison consiste à vivre de la très sainte Trinité. Cana. On commence par moi. Et ici, Judas est absent. Il faudrait mettre Judas. Judas ne fait pas oraison. C'est Judas qui est en nous. Donc, il n'accepte pas le cœur. Il n'accepte pas. Il ne peut pas. L'orgueil est trop fort. Mais il est là au deuxième repas. Deuxième repas, multiplication des pains. Pour nourrir le corps. Vous êtes repu. Et Judas est là. Et quand on explique que le pain pour nourrir le corps, en réalité, c'est pour vivre la résurrection, et à travers la résurrection de l'éternité, de la plaie du cœur, de la grâce, et enfin de l'Esprit Saint, et qu'il veut se nourrir la chair du Fils de l'homme, il dit non. Ça, non. Et vous voyez, la première fois que Judas a dit non, la trahison de Judas a démarré par rapport à l'Eucharistie. Le refus de l'Eucharistie, c'est de rentrer dans le cœur de Judas. Judas qui le trahit. Et après, aux autres repas, on va voir Judas. Judas, à l'action de grâce, et il est là. À l'action de grâce. Cher, ben voilà, bien sûr. Il est là, comment ça, la gratuité pure, tout ça. Marie qui rentre, qu'est-ce que c'est quoi l'action de grâce? Il dit non. Comprenez bien, l'action de grâce, c'est quoi? Vous voyez comment il dit. C'est aberrant, Jésus a reçu, à travers la foi de Marie, elle lui a donné sa chair à Jésus. Alors, avant de partir, dans la résurrection, elle a laissé toute seule. Il faut bien qu'il fasse une visitation de grâce, qu'elle ait un lien avec l'Esprit Saint, dans la résurrection. Et donc, il faut bien qu'elle lui donne quelque chose. Il n'y a pas uniquement cette espèce de sacrifice, cette la compassion. Il ne sait pas. Résurrection et sanction, elle l'a laissé dans le sang.
Elle vit au pont de la croix. Il faut bien qu'il fasse la sienne.
Elle lui a donné son corps, sa chair. La chair qu'il a reçue, c'est elle qui l'a. Alors, il faut bien qu'elle remercie, qu'il y ait une gratitude. C'est pour ça qu'on dit que l'Eucharistie est une action de grâce. Jésus a inventé l'Eucharistie en action de grâce. Pour remercier. Elle lui a donné une chair facile pour souffrir. Et du coup, il lui donne la chair glorieuse sous le mode de l'Eucharistie en action de grâce. C'est pour ça qu'on dit que l'Eucharistie est une action de grâce. Mais Eucharistie en grec, ça veut dire action de grâce. Eucharistie. Lié à Marie directement. Une réponse d'amour, Jésus. Ça, Jésus, Judas ne supporte pas l'amour gratuit, le don gratuit total. Il comprend. Alors il dit non. Toujours le mystère de renaissance. La résurrection, non. Je préfère le messianisme temporel. Ah, non. L'action de grâce, non. Il faut les prendre. Judas, tout le temps, il dit non. Comme Satan. Et comme il est intelligent, il ne dit pas non, les pauvres, il dit. Ah non, il dit non, les pauvres. Il sait qu'il faut descendre vers le bas. Au grand en dessous, c'est toujours ça de gagner. C'est la méthode de la synarchie. Hein. Vous voyez, Judas, et après, vous allez avoir, bien sûr, au moment du mémorial. Vous voyez ? Au moment du mémorial, vous aurez évidemment le fait que Judas va se nourrir, j'allais dire, du corps de l'Eucharistie, et puis du coup, le démon pénétra en lui, il va trahir. Et puis au cinquième, j'allais dire, la plaie du cœur, il est pendu. C'est fini. Il est absent. Donc il est absent à l'alpha et à l'oméga. Mais c'est assez beau. C'est Lanza del Vasto qui a écrit un livre sur Judas. Le mystère de Judas, vous voyez, il ne dit pas ça. Dommage, c'est beau de voir le mystère de Judas à travers le mystère de l'Eucharistie. Ça fait comprendre beaucoup de choses, vous savez. Et donc, voyez-vous, vous avez ici ces cinq aspects donc, du mystère du pain de vie. Je voudrais terminer en disant je suis le pain de vie, en expliquant quand même. Il est 6 heures, ça veut dire quoi ça? J'ai 5 minutes. Bon, je suis le pain de vie. Oui, parce que quand même, parce que tout ça est structuré par « je suis le pain de vie ». C'est une révélation au plus haut du mystère de la Sainte Trinité. L'Eucharistie est une révélation sur le mystère de la très Sainte Trinité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il dit « je suis », c'est le point de vue de l'être de Dieu éternel. Pas dans la création. « Je suis », c'est Dieu. En tant que Dieu, avant la création, dans l'éternité. Donc lui, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, celui qui joue le rôle de l'épouse dans la très sainte Trinité. Qu'est-ce qu'il est dans la très sainte Trinité? Il est le pain du Père. Le Père, quelle est la vie du Père? C'est une vie contemplative, je vous l'ai dit. Et donc, il contemple son Verbe, il s'en nourrit. Il se l'assimile. Quand vous mangez une nourriture, la contemplation, c'est une assimilation. C'est une assimilation intentionnelle. C'est-à-dire qu'il respecte. Si je te contemple, je t'assimile en moi, tout en te respecte. Sans t'abîmer. C'est une assimilation intentionnelle d'amour. Et c'est une assimilation. Quand tu assimiles le pain, et le pain se transforme totalement en toi. Il disparaît. Et te donne, j'allais dire, il n'y a plus ni toi, comme les deux. Et en fait, c'est une mutuelle assimilation, bien entendu. Et je suis le pain de vie. Le Père contemple. Et le Verbe de Dieu est contemplé. Vous voyez, le mariage. Hein. Le mari contemple son épouse. Et l'épouse se lève. Dévorée par cela. Dans Mendication d'amour. Assimilez-toi. Assimilez, bouffez, consommez, n'est-ce pas? Hein? Dévorez.
C'est merveilleux.
Effectivement. Alors, vous voyez, le pain. Alors, il s'assimile, mais le pain se transforme en vous quand vous l'assimilez. Mais quand tu te nourris de l'Eucharistie, toi, hein, et que tu manges l'Eucharistie, c'est tout ça, tout le problème est là. Il faut savoir, le problème, c'est quoi? C'est que si tu es une vache et que tu manges de l'herbe, c'est un degré de vie beaucoup moins grand, l'herbe, par rapport à la vache. Donc l'herbe se transforme dans la vache. Les morceaux d'herbe se transforment en cellules de vache. Et toi, quand tu manges la vache, donc, hein, vous connaissez le petit refrain, donc, quand tu manges la vache, tu es un homme. La vache se transforme dans les cellules de ton corps à toi. Plus tu montes dans les degrés de vie, plus, j'allais dire, la simulation. Mais quand tu manges l'Eucharistie, t'en
compte ? Lequel est dévoré par Dieu ?
Quel problème ? C'est évidemment Jésus qui nous dévore, qui nous prend dans la place imprimée. C'est l'ascenseur divin, l'Eucharistie. Mais quand c'est le Père et son Verbe, ils sont égaux, substantiellement. Alors lequel est celui qui dévore? Et c'est pourquoi, j'allais dire, dans cette assimilation, ils sont tous les deux transformés dans une vie. Le pain, donc je suis le pain de vie. C'est l'assimilation, le Père contemple son Fils complètement, et du coup c'est la vie. C'est une révélation sur la manière dont l'unité se fait entre les deux premières personnes pour donner cette vie de l'amour. Très extraordinaire de comprendre ça. Et quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il faut comprendre que c'est nous devons offrir Jésus, la très sainte Trinité, nous offrir et offrir tout le corps mystique à la très sainte. Parce que c'est la très sainte, le pain de vie. Donc voyez, je suis le pain de vie, c'est le corps du Christ, c'est le corps mystique du Christ, et c'est la très sainte Trinité. Égal, vous pouvez mettre égal, vous voyez, hein? En mathématiques, ça ne fonctionne pas. Mais pour le mystère de la grâce, c'est réel, substantiel. Vous voyez, c'est ce que nous avons. C'est beau, c'est très grand. On verra demain comment... essayer de gérer et regarder comment l'Église, avec saint Thomas, on va essayer de voir comment saint Thomas, par exemple, parle du mystère de l'Eucharistie.